Des micros, Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour André, bonjour à toutes et à tous.
Et aux autres, Daniel, et n'oublie pas.
Oui, mais je sais que tu vas me le dire, alors tu vas... je ne voudrais pas te prendre tes mots d'humour. Hein.
Oui, puis bon, bah, ils existent.
T'en reste la partie de la paternité.
Hein. Ils existent, hein, ils font la une des médias. Et André, hein, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aux autres, bien sûr. Alors, Daniel, quelle nouvelle, c'est... Il y a plein de crises, hein.
Oui, il y a plein de crises actuellement, et alors notamment la crise de foi. Alors, crise de foi, c'est plutôt après les fêtes, mais là, c'est une chanson qui a été sortie par un groupe pour illustrer une bande dessinée qui a été écrite et réalisée par deux auteurs de BD qui ont fait des dessins humoristiques, je dirais un peu débridés sur les religions. Alors, ils s'appellent Jean-Michel Renaud et Raffager. Alors, Jean-Michel Renaud est auteur de BD, de caricatures et de dessins de presse depuis son entrée au journal Pilote en 1975. Ça rappellera des souvenirs à nos jeunes auditeurs.
À nos jeunes vieillards.
Voilà. Et Raffager, alors de son vrai nom, c'est Raphaël Donnet. Lui, il est né en 1962 dans le sud de la Belgique, près du Luxembourg. Donc c'est l'humour belge, c'est très intéressant. Il est secrétaire général de France Cartoon et président du Festival international de la caricature de Virton. Virton, c'est une petite ville en Belgique. Et alors ce Festival international de la caricature de Virton a été rebaptisé Festival des vieux cons depuis 2024. Donc, ce qui ferait plaisir à notre camarade Michel Lebourg dans sa chanson sur les jeunes cons et les vieux cons.
Voilà.
Voilà, donc on va écouter cette chanson, hein, éloigner peut-être les enfants des...
Oh, tu sais, avec ce qu'ils voient sur Internet maintenant.
Oui, oui, oui. Et puis ça contrebalance par rapport à Trump, Musk et tout ce que l'on peut voir.
Crise de foi, crise de foi, crise de foi. C'est la panique sous les minarets et les clochers. Le doux Jésus, les marmets se roulent de paix. Les imams en bois, les curés tombent leur micelle. Jamais les religions n'ont autant fait rigoler. Depuis que ces fils de Satan ont publié l'album sur tous les tapis et dans toutes les travées, les dévots tombent comme des mouches dans les pommes. Même ces satanées grenouilles de bénitiers. Crise de foi, crise de foi, crise de foi. Les auteurs Renaud et Raffager mettent en garde les lecteurs. Si vous croyez aux sornettes déversées par les clergés, n'ouvrez pas ce livre joyeux, salutaire et réparateur. Pour comprendre le second degré, il ne faut pas avoir jeté ses derniers neurones dans ces puits d'absurdité. Crise de foi, crise de foi, crise de foi. Les dessins de cet album sont des cris, des plaidoyers contre ces cochons de curés qui glissent leurs sales pattes dans les culottes des bambins et le corsage de leur mère, contre les abrutis qui prêchent la haine dans des sourates et promettent aux plus cons les cuisses des vierges. Crise de foi, crise de foi, crise de foi. Nous les non-croyants, les mécréants, les infidèles, rions de ces sombres conneries à gauche déployées, comme des gamins en toute légèreté, en toute liberté, puisque depuis 120 ans la laïcité nous le permet. C'est la panique sous les minarets et les clochers, rions de ces sombres conneries à gorge déployée, comme des gamins en toute légèreté, en toute liberté, puisque depuis 120 ans la laïcité nous le permet. C'est la panique sous les minarets et les clocher. Le fringant Jésus et Mahomet se roulent une pelle. Les demi-dinettes sacrées font les jolis cœurs, en se foutant bien de faire rougir les bonnes sœurs. Crise de foi, crise de foi, crise de foi, et on a cassé le cerf. Et un Alka-Seltzer.
Voilà, ceci dit, vous commencez le repas de midi, et l'Alka-Seltzer, ça se prend après le repas.
Hein,
je dis ça. Bon.
Oui, alors donc un très bel album illustré avec un fond rose, un cœur, et dans ce cœur, on a Jésus et Mahomet qui s'embrassent. Alors comme ils disent dans la chanson, se roule une pelle. Hein, bon. Mais voilà. Bon, c'est vrai que actuellement dans notre république, France républicaine et laïque, nous avons pleinement le droit de rire de tout. Donc cet ouais. album aussi, c'est un ouvrage de combat.
Enfin, république, je ne sais pas très bien si on est en république. Laïque, je ne sais pas très bien.
Aussi.
Voilà. Et France, n'oublions pas que toutes les décisions sont prises à Bruxelles au nom de la communauté.
Oui, mais Bruxelles aurait pu être français.
je suis d'accord avec toi que.
La Wallonie, mais c'est Bruxelles. À Bruxelles,
c'est, oui, c'est pas la Wallonie à Bruxelles.
C'est les Flandres, il ne faut pas.
C'est à cheval entre les deux, Daniel. Hein, ne dis pas à un Bruxellois qu'il est flamand, ne lui dis pas qu'il est wallon ou germanophone, hein, s'il te plaît. T'auras moins de problèmes. Hein.
Voilà, donc dans cette chanson, on parle des 120 ans de la laïcité. Bon, rappelons que le 6 décembre 2025, pour les 120 ans de la loi de 1905, eh bien, il y a un grand meeting prévu. C'est le samedi 6 décembre au gymnase Japy à Paris, avec la Libre Pensée, je crois, la Ligue des Droits de l'Homme, la Ligue de l'Enseignement, énormément d'associations. Ça commence à se mettre sur pied. Voilà pour cette chanson d'introduction qui nous met tout de suite dans l'ambiance.
Dans l'ambiance, on parlait de la panique sous les clochers. Les clochers italiens, c'est aussi un peu la panique. Hein. Gisela Cardia, vous la connaissez, hein. Bon, des larmes de sang coulaient des yeux d'une statuette de la Vierge de Trevignano Romano et avaient attiré moult pèlerins près de Rome. C'était des larmes contrefaites. La voyante autoproclamée en avait fait un juteux business. Elle utilisait son propre sang selon des analyses ADN révélées par la presse italienne. En 2024, le Vatican, qui n'est pas si bête que ça quand même, hein, disons-le, avait déjà réfuté le caractère surnaturel des apparitions relatées par Gisela Cardia, qui avait affirmé avoir entendu Marie et assisté à des miracles, toujours à Trevignano Romano. Bon, cette quinquagénaire sicilienne racontait avoir la peau marquée par des stigmates et communiquait directement avec la Vierge. L'affaire très médiatisée avait attiré des centaines de pèlerins qui se rendaient chaque mois prier la statue de la Madone sur les hauteurs du lac Bronciano. L'ex-entrepreneuse, condamnée en 2013 pour banqueroute, avait assuré avoir vu la statuette de la Madone verser des larmes de sang et avoir assisté à une multiplication de pizzas et de gnocchi. On est en Italie
même.
Hein.
C'est pas les petits pains.
Voilà. Donc, une multiplication de pizzas et de gnocchi, comme dans le miracle de la multiplication des pains décrit dans l'Évangile. En réalité, le sang était le sien, comme l'ont confirmé les analyses génétiques de 4 prélèvements, renvoyant tous à son ADN. Le diocèse avait ouvert une enquête en avril 2023, à la suite de plaintes de nombreux habitants de Trevignano Romano, déplorant une arnaque géante et exaspérée par les allées et venues des fidèles. Le parquet de Civitavecchia avait lui aussi ouvert une enquête pour escroquerie. Grâce au succès né du bouche à oreille, Gisela Cardia avait fondé une association qui engrangeait les fruits d'un juteux business nourri par les dons individuels. Seules les lacrymations de la Vierge à Syracuse en Sicile en 1953 ont été officiellement reconnues comme miraculeuses par le pape. Depuis, on ne compte plus les phénomènes du même genre revendiqués autour des statues de Marie, du Christ ou du Saint ou de Saint en Italie, où 74,5% des 59 millions d'habitants sont catholiques. Quoique, il y a beaucoup de catholiques qui doivent pas croire quand même aux conneries que racontent certaines femmes d'affaires. Voilà.
Oui, alors ce sang qui coule là des yeux de la Vierge, on le retrouve aussi dans... Enfin, c'est un phénomène, je dirais, fréquent, c'est dans le cadre de la religion catholique. Là, c'était...
C'est une religion qui aime bien faire couler le sang. Hein.
Oui.
Je suis désolé de le dire.
Sous toute forme.
L'histoire le prouve.
Comme... j'aurais toutes les religions.
Celle-là...
Elle a l'ancienneté.
Elle a l'ancienneté pour elle, quoique les bouddhistes aussi. Ils sont plus anciens. Après, on va pas faire un concours. Faire un concours... Il y en a qui font des concours avec les enfants. Les enfants, c'est sacré. On ne doit pas leur faire violence, il faut les protéger. C'est très mal vu de faire mal à des enfants par l'opinion publique dans la plupart des pays. Mais il y a des exceptions quand même. Par exemple, la fille de François Bérou, qui se fait tabasser par les braves pères de Bétharram, sans aucune réaction de la part de son papa quand même. Et pourtant... je l'ai entendu dans une émission de radio, en avril 1987, c'est quand même ancien, les violences des braves pères de Bétharram avaient déjà été mentionnées sur France 3 dans des spots d'actualité, par exemple. Donc c'était connu. Il y a des exceptions aussi en Angleterre ou au Royaume-Uni.
Oui, c'est un peu comme l'histoire de Riaumont dont on a parlé dans notre dernière émission, où c'était connu depuis de nombreuses années. Et puis, on a l'impression qu'on découvre ça maintenant.
Ils en parlent toujours.
Ce sont des faits qui étaient connus.
Voilà.
Oui, alors, tu parlais de la Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne et le soin qu'ils prennent des bébés. Donc, les révélations sur les défaillances des services de maternité anglais ont conduit le gouvernement de Keir Starmer a lancé une enquête nationale sur un sujet qui scandalise quand même le pays. Des centaines de bébés dont la mort aurait pu être évitée. Le scandale des maternités défaillantes horrifie le Royaume-Uni, alors que les révélations se sont multipliées ces derniers temps, au point que le ministre de la Santé, Wes Streeting, a lancé lundi une enquête nationale sur les services de maternité anglais et promis des mesures urgentes pour endiguer ces tragédies. Les scandales, la répétition ont fini par sonner l'alarme. Par exemple, à Shrewsbury et Telford, des enquêtes locales ont montré de sérieux manquements dans les soins dispensés sur une période de 20 ans qui pourrait avoir entraîné la mort de plus de 200 bébés et de 9 mères. Excusez le peu des chiffres. Une enquête publiée en janvier par la BBC sur deux hôpitaux de Leeds, au nord de l'Angleterre, a aussi révélé que la mort d'au moins 56 bébés aurait pu être évitée entre janvier 2019 et juillet 2024. Le refus obstiné des médecins d'effectuer des césariennes et des soins et l'application de soins inadéquats ont été relevés. Plusieurs rapports ont aussi mis en évidence des inégalités au détriment des femmes issues de minorités ethniques. Les femmes noires ont 4 fois plus de risques de mourir pendant la grossesse ou l'accouchement que les femmes blanches. Pour les femmes asiatiques, ce risque est seulement 2 fois plus élevé. Entre 2009 et 2022, le taux des femmes décédées au cours ou après leur accouchement en Angleterre a bondi de 27%. Bon, ce chiffre est aujourd'hui au plus haut depuis 20 ans. Hein. Attention quand même, cette mortalité de nouveau-nés est probablement due aussi aux très mauvaises conditions de vie des immigrants en Grande-Bretagne. Hein. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas oublier. Alors, ce ne sont pas n'importe quel enfant qui meurt. En 2014, Catherine Corless, en Irlande, révélait que 796 enfants avaient été inhumés anonymement dans un foyer en Irlande, le foyer de Tuam, administré par les Sœurs du Bon Secours, une congrégation religieuse française, féminine, enseignante et hospitalière de droit pontifical.
Une petite remarque, tu dis 2014, ça fait 10 ans, on en a déjà parlé, de Tuam.
Ah oui, ça fait 10 ans qu'on en parle.
Voilà, et là, dans un article récent, on en reparle, puisque je crois que c'est dans le Figaro que tu as vu ça du 15 juin dernier. Donc,
on cite pas nos sources, Je veux dire, n'hésitez pas à nous les demander.
Dix ans après,
le Figaro, par exemple.
Toujours. Un problème qui n'est pas résolu tout au moins.
Oui, et puis, je veux dire, ils vont commencer à fouiller.
Commencer.
Je veux dire, on verra quand ça se terminera. Hein.
Il y a même 800 cadavres. Hein. Bon, ça fait... Enfin, 796.
Voilà. On verra. Alors, ce fut un combat acharné. Hein. Tout commença en 2014. Cette année-là, Catherine Corless met au jour des preuves attestant du décès de 796 enfants, des nouveau-nés jusqu'à l'âge de 9 ans, dans un foyer situé dans une petite ville à 220 km de Dublin. Ces recherches conduisent à une découverte macabre, une fosse commune. Il n'y avait aucun registre d'enterrement, pas de cimetière, pas de statue, pas de croix. Absolument rien, se rappelle-t-elle. Surtout quand j'ai commencé, personne ne voulait écouter. Je suppliais, sortez ces bébés des égouts, offrez-leur un enterrement chrétien, digne, mais on leur a refusé. Pendant des décennies, la société, l'État et l'Église catholique, qui a historiquement toujours eu une main de fer sur les comportements en Irlande, ont relégué les femmes enceintes non mariées dans des maisons mère et enfant. Après l'accouchement dans ces conditions, les enfants étaient séparés de leur mère, puis souvent adoptés. Bon, à la suite des révélations de Catherine Corless, des enquêtes ont été lancées dans le pays. Elles ont établi que 56 000 femmes célibataires et 57 000 enfants sont passés par 18 foyers, maisons mères et enfants, entre 1922 et 1998. Parmi eux, environ 9 000 enfants sont morts. Oui, on a le certificat de naissance, mais après, plus aucune trace. Voilà. Malgré la découverte de premiers restes humains en 2016 et 2017, il a fallu attendre 2022 pour qu'une loi autorise officiellement les fouilles. Ben voilà, hein, c'est l'actualité. Hélas.
Oui. Et alors, c'est Notre-Dame du Bon Secours, hein, je crois, qui a des liens d'ailleurs avec le Bon Pasteur dont on a déjà parlé, je crois, c'est un de la même congrégation, et on en reparle actuellement, avec l'affaire Bétarame, il y en a pas mal. Il y a le rapport Paul Vanier et de Violette Spielboot, là, et puis dont on parle actuellement, il y a 80 associations de victimes, je ne sais plus combien de centaines d'établissements, dont 80-90% sont des établissements privés catholiques. Hein. Alors, rappelons quand même que les établissements privés représentent à peu près 20%, tout au moins au niveau des élèves, c'est un peu moins de 20%. Donc, en ce qui concerne les violences sexuelles et autres, ils sont là largement représentés.
Oui, mais enfin, il faut faire marcher l'économie, il faut donc privatiser un peu tout ce qu'on peut. Hein, que ce soit l'école, l'éducation, les hôpitaux, voilà.
Oui, alors puisqu'on est là sur les religions, ce qui est effectivement le sujet qu'on aborde le plus souvent, tu as parlé de l'Italie, tu as parlé de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, etc., de Bétharam en France, etc. Mais ayons un regard un peu vers le Moyen-Orient, hein, où après Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen, maintenant c'est au tour de l'Iran d'être bombardé par Israël. Hein. Donc il sera bientôt plus facile de dresser la liste des pays et territoires du Proche-Orient qu'Israël n'a pas bombardé en 2025. Hein. Ce sera plus...
Tu risques d'avoir une feuille blanche.
Peut-être. Bon, alors la situation désastreuse au Proche-Orient amène Yvon Quignoux, qui est un philosophe matérialiste, à réagir sur son blog en lançant un appel à la raison contre les religions. Il nous dit que, au-delà des enjeux économiques ou nationalistes qui opposent Israël et l'Iran, il y a un sectarisme religieux délirant de part et d'autre. Il faut donc revenir à une approche critique des religions pour ouvrir aussi une voie à la paix. Alors pour justifier son approche, Yvon Quignoux prend trois exemples. Alors on va les nommer. Israël, tout d'abord, et Benjamin Netanyahou. Hein, voilà un État qui, après avoir été créé sereinement pour accueillir un peuple dévasté par le nazisme et dans une forme laïque ou démocratique, hein, il y aurait quand même des choses à dire, eh bien, s'est raidi sur son identité religieuse et amène ses gouvernements à se réclamer d'une transcendance divine pour s'approprier en droit et en fait un territoire. Comment accepter un pareil fantasme irrationnel, même si un pluralisme minimal existe dans ce pays, qui dérive là complètement vers l'extrême droite. Alors, ensuite, il prend l'exemple de l'Iran et de son guide suprême, Al-Khamenei. Alors, ce dernier guide suprême dirige son pays en dictateur et il le fait sur la base d'un prophétisme islamique religieux, donc proprement délirant, d'une intolérance et d'une violence extrême, au nom duquel il revendique le droit de dominer le monde pour imposer sa croyance et éliminer ceux qui n'en veulent pas, ceux qui ne pensent pas comme lui.
Oui, moi je connais d'autres pays qui, au nom d'une religion, économique,
oui,
font exactement ce dont on accuse l'Iran. Rappelons que l'Iran, pays religieux, l'Iran dit, nous, on suit les préceptes d'Allah et on ne développe pas de bombes atomiques.
Oui, oui. Alors c'est ce que dit Yvon Quignoux après. Là, à cela s'ajoute un totalitarisme dit spirituel qui l'entraîne à asservir des millions de fidèles et à les pousser de force dans des prières et des rites totalement aliénants. Ceux qui ont pu voir à la télévision récemment des phénomènes collectifs qui frisent la folie mentale comprendront. On en sort abasourdi et malheureux pour l'humanité. Or, c'est bien cet absolutisme religieux, contraire à la liberté de l'esprit, qui entraîne ce guide à vouloir la mort de l'État israélien. Bon, et enfin, derrière tout cela, il ne faut pas l'oublier, il y a Trump aussi, hein. Bon, alors on va essayer délibérément tous les aspects odieux du personnage, parce qu'il faudrait faire plusieurs émissions, comme toutes ces exactions aux États-Unis ou de par le monde. Mais ce qui est proprement ahurissant, c'est la manière dont cet homme violent, prédateur économiquement, là aussi, hein, raciste, hostile à l'immigration, se réclame officiellement et publiquement de Dieu. On a pu voir tout récemment à la télé, le voir gesticuler une nouvelle fois, donc, mais s'appuyer trois fois sur sa foi chrétienne. Alors là, il a cité Dieu trois fois pour justifier sa politique globale.
Oui, mais Ursula von der Leyen, elle fait la même chose au nom de l'économie.
Oui.
Et j'ajoute que pour devenir complètement abruti, il suffit de regarder, je ne sais pas moi, BFM en continu.
Alors CNews, là, c'est
CNews, suite. Là, c'est la même chose.
Beaucoup plus rapide encore.
Alors, les journaleux, parce que n'arrêtent pas de nous vanter ces médias. Rappelons que le taux officiel d'audience de BFM, c'est un petit 3%. Autrement dit, rien.
Et je pense que c'est la chaîne dite d'information en continu qui a le plus d'auditeurs.
Voilà, donc les autres, c'est pas grand-chose.
Mais à vérifier.
Enfin, d'information, on n'a pas la même définition du mot.
En continu, ça, voilà. Oui.
De propagande en continu.
Voilà. Bon, alors, en conclusion, là, constatons que nous assistons à un recul désastreux de l'esprit critique, donc de la raison, face à la religion et ses impostures théoriques et pratiques. Non qu'il faille rejeter les religions ou, comme on dit, les dieux, et les exclure de l'espace public. Un agnostique ou un athée n'est pas du tout sur cette position, même s'il souhaiterait que leur influence s'amenuise progressivement pour permettre aux hommes d'assumer pleinement leur humanité hors de toute déraison. C'est vrai que, au niveau des religions de ces pays, mais aussi au niveau de la désinformation, comme tu le disais, on a
le libéralisme économique est une religion quand même, je veux dire. On voit pertinemment que ça ne fonctionne pas et c'est une catastrophe. Mais non, tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà, c'est hallucinant. Alors, tu voulais nous parler aussi des écoles de commerce.
Ah oui.
Oui, parce que, je veux dire, pour être, speaker sur BFM, il faut avoir fait une école de commerce.
On parle des chaînes d'infos en continu, des États-Unis, de l'économie, enfin bon, tout ça. Eh bien, parlons un peu du marché des écoles privées. Alors, face aux places limitées et à la forte concurrence dans les universités publiques, de nouveaux établissements privés attirent chaque année davantage d'étudiants déçus de Parcoursup. Hein, Parcoursup, c'est juste avant d'avoir le bac, on fait ses vœux pour aller dans le supérieur. Et Mon Master, qui est une plateforme qui permet d'avoir une orientation après la licence, les 3 ans de licence. Donc à chaque rentrée universitaire, de nouvelles écoles privées, pas forcément confessionnelles, hein, écoles de commerce, de droit, de management, de communication.
Hein, oui.
Ça, il faut savoir communiquer. Bon, après, on ne sait pas très bien ce qu'on communique.
L'ESJ, c'est une école privée.
L'ESJ est privée, oui. Alors, ces nouvelles écoles privées poussent à l'ombre des facultés publiques. Hein, ça se développe comme ça. Les clients, entre guillemets, parce que juste sont des clients, là, hein, sont pour beaucoup des lycéens déçus de leurs résultats d'admission sur Parcoursup et des étudiants qui ont été éconduits de Mon Master. Hein. Ça, c'est pour ceux qui ont une licence. Ce sont Parcoursup et Mon Master, ce sont deux plateformes gouvernementales d'orientation post-bac et post-licence. Alors, quand l'université publique croule sous les demandes de places, eh bien, de nouveaux acteurs privés ont investi l'espace. Depuis plusieurs années, ces écoles privées jouent sur les mots et la proximité phonétique entre master, M-A-S-T-E-R, qui est un diplôme national délivré par les universités et certaines grandes écoles qui sont membres de la conférence des grandes écoles, et Master E, M-A-S-T-E-R-E, qu'elles se sont appropriées pour désigner leur diplôme. Alors un Master, M-A-S-T-E-R, c'est un diplôme national officiel, tandis que les Master, M-A-S-T-E-R-E, eh bien, ce sont des diplômes maison. Mais de même, des établissements proposent aux bacheliers des diplômes d'école qu'on appelle des bachelors. Ça fait
Américain, c'est bien, c'est bien.
C'est les bachelors, alors là, c'est encore mieux. Non reconnus par l'État. Mais on demande quand même plus de 7000 euros par an. Un exemple, lors des journées portes ouvertes de l'ESAM. Alors l'ESAM, c'est l'école supérieure d'audit et de management. Donc ces journées portes ouvertes ont eu lieu dans les locaux de l'école à Paris, dans le 10e arrondissement. Bon. Eh bien, lors de ces journées, un commercial, encore entre guillemets, mais ce n'est pas un enseignant, commercial fait l'article de son école, qui est membre du groupe d'enseignement privé Hygencia. Alors il explique, c'est comme la faculté, hein, affirme le camelot, à un client, un étudiant, mais un client, mais en mieux, hein, c'est comme la faculté, mais en mieux. Quant au bachelor que propose l'ESAM, pour 7400 euros la première année et 7900 euros les deux suivantes, le gars qui est là, l'enseignant, il dit « c'est pareil qu'une licence hein, », assure-t-il. Voilà. Or, tout est faux. Un bachelor n'est pas équivalent à une licence, ça donne rien. Alors, dans le privé, peut-être, c'est... mais toutes ces écoles ont néanmoins un succès croissant, puisqu'il y a de moins en moins de place dans l'enseignement public. Quand vous n'avez pas de place à l'Université de Lille publique en médias et culture, enfin, etc., où l'inscription doit être de 500 euros avec la sécurité sociale, eh bien, vous pouvez aller faire le même diplôme à la Cato. Mais là, vous payez 10 fois plus, 5000 euros. Parce que vous n'avez pas eu la place dans le public avec Parcoursup.
Comme tous les seconds samedis du mois à 12h, la libre pensée de Villeneuve d'Ascq sur Radio Campus Lille. Une radio libre.
Ouais.
Allez, un petit Didier Super maintenant. Je reste optimiste, c'est le moment de le dire.
Et je vais faire ma chanson pour dire c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'être fier d'être de droite. Je reste positif, moi je continue de dire non, 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 tout n'est pas perdu. Reste positif, moi je continue de dire non, 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 tout n'est pas perdu. Je l'ai déjà dit, je reste positif. Et non, tout n'est pas mort, la preuve, je suis macroniste et j'y crois encore. Et franchement, le sud de la France, il n'a pas encore complètement brûlé. Je suis sûr que dans les nouveaux ministres, il y en a qui n'ont même pas de casier. La gestion de la pandémie, et franchement, c'était pas pire. La preuve, il y a eu encore assez de vieux pour le réélire. Je reste positif, non, tout n'est pas galère. Évidemment, quand je dis ça, je ne parle pas des infirmières. Je reste positif, la vie c'est pas si difficile. Évidemment, quand je dis ça, je parle pas des enfants qu'on enfile. Tu verras qu'un jour la guerre en Ukraine va s'arrêter. Forcément, ce jour-là, l'électricité va baisser. Alors on laissera nos portes de fric en grande ouverte. Et c'est ainsi que tous ensemble, on refroidira la planète. Je reste positif, tout n'est pas si mal barré. Je connais même encore des profs qui se sont pas fait poignarder. Je reste positif. Je connais même un agriculteur qui s'est pas encore pendu. Je reste, oui bah écoute, hein. Je reste positif. La vie ça peut être beau. Et si ça se trouve, ça existe. Un transgenre bien dans sa peau. Je reste positif. Non, la vie c'est pas si triste. Y'a peut-être même encore des gauchos qui sont pas antisémites.
Voilà. Bonheur Daniel, en fait, le peuple juif, bon, dévasté par la guerre, mais rappelons quand même que le peuple russe aussi était dévasté par la guerre, plus de 30 millions de morts, sans compter, les endroits où se sont passées la guerre, hein, c'est-à-dire entre la tactique de la terre brûlée mise en place par les Russes et les destructions des nazis allemands, il restait plus grand-chose, il a fallu tout reconstruire, et d'ailleurs, ça explique une partie du retard de l'économie russe. Hein. En Chine, c'est pas 30 millions, c'est beaucoup plus. Il y a eu des massacres insensés en Chine. Hein. Voilà. Bon.
Il y a eu le Japon aussi.
Oui, le Japon, bon, mais.
Avec les deux bombes, Hiroshima et Nagasaki,
oui,
je sais pas.
Ils n'ont pas fait tellement de morts. C'est pas par dizaines de millions. Hein.
Oui, et pas tout de suite.
Voilà. Après, c'est pas tout de suite. Bon, on va revenir aux universités, aux écoles. Hein,
oui, tu voulais nous parler de l'Université libre de Bruxelles.
L'ULB, voilà. L'ULB,
quand on dit libre, c'est le libre arbitre, hein, libre voilà. Examen.
Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, alors, le voile. Oui. Par exemple, hein, le port de ce morceau de tissu a parfois quelques conséquences. Allez, un petit extrait de la RTBF, si mes souvenirs sont exacts. Hein.
Entre 150 et 200 personnes réunies devant l'auditoire Janson. Raison de ce rassemblement, les mesures anti-triche décidées par un professeur pour l'examen de génétique en deuxième année de psycho. Elle suscite la polémique.
Après discussion avec les délégués étudiants, avec le rectorat, avec à peu près tous les acteurs qui m'ont interpellé, j'ai décidé de juste ponctuellement vérifier une fois la présence, préférence l'absence de dispositifs de triche dans les oreilles et au niveau des poignets pour tous les étudiants.
Mais ces nouvelles dispositions ne convainquent pas les étudiantes et étudiants présents lors de ce rassemblement.
C'est juste que c'est quelque chose qui a été communiqué très tardivement, donc hier. Et donc, il a rajouté encore du stress et un poids mental et psychologique à toutes ces étudiantes et à tous ces étudiants qui passent cet examen aujourd'hui, qui ont déjà dû faire face à toute cette polémique et toutes ces mesures qui leur ajoutent du stress qui n'est pas nécessaire quand on passe un examen. Enfin, moi, je suis étudiante, je sais que c'est déjà stressant de passer un examen et de le passer alors qu'on sait qu'il va y avoir des mesures discriminantes, qu'il va y avoir des passages entre les rangs de professeurs qui peuvent vérifier vos oreilles alors que vous n'en avez pas forcément envie. Ça rajoute un poids et un stress.
Du côté du rectorat de l'ULB, la réaction est venue par un communiqué.
Consciente de l'impact des innovations technologiques sur les pratiques d'évaluation, l'ULB procède à une mise à jour régulière de son règlement général des études. En particulier, un groupe de travail composé d'experts techniques et pédagogiques a ainsi été mandaté pour suivre de près ces évolutions, adapter les méthodes d'évaluation et, le cas échéant, renforcer les dispositifs de prévention en matière de tricherie durant les évaluations.
Une solution technique pour l'avenir serait peut-être de couper de potentielles connexions Bluetooth.
Voilà, ça, c'est tout à fait logique. Hein. Il y en a qui protestent contre ça, en plus des étudiants, je veux dire. Tout le monde passe des concours, et puis y en a qui ils sont pas choqués par la triche, voilà. Alors pour information, attention, le langage est différent en France ou en Belgique. Par exemple, un petit bout de papier sur lequel vous notez, les informations qui vous permettront de tricher à l'examen, ça s'appelle un copion. Voilà. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, c'est tout à fait logique que l'université s'adapte aux progrès techniques.
Oui, alors là, justement, on entend une étudiante qui dit on n'est pas forcément toujours envie que l'on aille voir ce que l'on a dans les oreilles. Bon, si nous étions dans les établissements privés comme à Bétaram, on va voir plus loin.
Oui, voilà, on va voir plus loin que les oreilles, ou plus bas,
hein, oui.
En sachant que c'est des vrais cinglés à Bétaram, je ne sais pas, des piqûres avec de l'eau, des scènes de violence envers les enfants, c'est...
Les élèves dehors, sur le perron en pleine nuit, en slip, plein hiver,
C'est tout à fait normal pour notre Premier ministre.
Il ne les accrochait pas sur une croix, quand même.
Ça va venir, j'ai l'impression, si on ne les arrête pas...
Puis on n'a pas encore tout découvert,
Voilà. Hein. Tu voulais nous parler
Du service civique, c'est ça.
Le service civique, voilà.
Oui, oui, c'est à partir d'un article du Monde du 26 juin dernier. Eh bien, en 2025, donc c'est-à-dire cette année, il y a 72 000 missions d'intérêt général qui seront confiées à des jeunes. Alors, ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, c'est ça, ce sont les services civiques. Mais 72 000 au lieu des 87 000 prévus. Donc, c'est une décision qui est fortement critiquée, d'autant qu'elle affecte les services publics et les associations qui devaient en bénéficier, comme Radio Campus, notamment, qui a un service civique par l'intermédiaire de la Ligue de l'Enseignement. Donc, les associations, ministères, organismes publics vont perdre 15 000 contrats de services publics en cette année 2025. Hein. Donc, au lieu de 87 000, eh bien, ce sont 72 000 contrats qui pourront être signés avec des jeunes de 16 à 15 ans et jusqu'à 30 ans en cas de handicap pour des missions d'intérêt général de 6 à 12 mois qui sont indemnisés à 620 euros par mois. Bon, la déception est d'autant plus forte que le service civique connaît un succès croissant. Évidemment, il y a tellement de jeunes qui n'ont pas de boulot, ben, c'est un moyen d'avoir un petit apport.
Voilà, un petit apport, de s'occuper, peut-être de découvrir des choses. Hein.
Voilà, et donc, il est dit, par un responsable de la Ligue de l'Enseignement, en 2024, nous avions eu plus de demandes émanant de jeunes et d'associations que de contrats financés. Et on nous annonce que ça va être bien pire cette année, 2 mois avant la rentrée, où devaient débuter de nombreux services civiques, hein, donc nous dit le délégué général de la Ligue de l'Enseignement, qui est une association laïque, qui permet justement à des milliers de petites associations d'accueillir un jeune en service civique. C'est le cas de Radio Campus, est adhérente de la Ligue de l'Enseignement, et c'est pour cette raison que l'on a un service civique par l'intermédiaire de la Ligue. Voilà, donc selon la plateforme interassociative pour le service civique, les réductions annoncées vont favoriser la sélection, réduisant les opportunités pour les jeunes non diplômés ou en situation de handicap ou qui vivent évidemment dans des quartiers défavorisés. Bon, ces réductions vont aussi fragiliser les associations qui sont déjà confrontés à des baisses de subventions de la part de l'État et des collectivités territoriales. Donc voilà pour cette petite information qui est en rapport justement avec Radio Campus, puisqu'on a régulièrement des services civiques ici. Voilà.
Voilà, maintenant peut-être notre rubrique culturelle ou policière, je ne sais pas très bien. Oui, Daniel.
Alors, oui. Alors, j'avais quelques brèves, effectivement. Alors, la première qui... Eh bien, je dirais qu'il y a des gens qui ne manquent pas d'humour, même dans cette période si raciste et morose. C'est d'après La Voix du Nord, hein, La Voix du Nord, qui nous dit qu'un policier municipal a été radié pour être venu en djellaba à une formation sur la radicalisation. Alors, il était stagiaire, hein, ce policier. Et ça s'est passé à L'Isle-et-la-Noix, donc c'est tout près de chez nous. La ville de L'Isle-et-la-Noix a mis fin au stage d'un policier municipal qui avait multiplié les insuffisances pendant plus d'un an. Et il avait notamment jugé bon de se présenter à une formation sur la prévention de la radicalisation revêtu d'une djellaba et en parlant arabe avec un accent forcé. Hein. Bon, ça n'a fait rire personne et il a été radié. Ça a été même repris dans la Charente Libre, hein, plusieurs journaux qui expliquaient qu'il avait enfilé une djellaba, pris l'accent arabe pour assister à une formation. On retrouve ça dans pas mal d'informations, évidemment. Alors, une autre petite brève, mais qui concerne la France entière, c'est le conclave sur les retraites. Hein, nos médias viennent d'adopter un nouveau vocable à propos des discussions sur les retraites. On appelle ça un conclave. Pourtant, par définition, le conclave, c'est l'assemblée des cardinaux réunis pour élire un nouveau pape. Diable, hein, oui, mais conclave, ça fait plus chic. Non,
et puis, on ne doit pas savoir ce qui se dit.
Voilà, oui, ah, oui, oui, voilà. On attend la fumée, quoi.
On attend la fumée, oui, voilà.
Alors, ça fait plus chic, surtout dans notre beau pays, que l'on nomme encore parfois baptisé, c'est-à-dire la fille aînée de l'Église. Bon, quand tous nos médias disciplinés baptiseront-ils notre président de la République laïque, Emmanuel Ier?
Fils aîné de l'Église.
Voilà, oui, Emmanuel Ier, le pape. Bien, c'est vrai, il y a, dans les années 36, on baptisait Augustin Laurent, maire du socialisme, maire de la ville de Lille. On disait de lui le pape du socialisme. Et donc.
Bah, il y a eu une drôle d'enfance, monsieur. Je parle de Martine Aubry.
Et donc. Voilà pour le conclave. Et puis, dernière info, évidemment, sur la canicule. Hein, ces jours-ci, la semaine dernière surtout, on a eu de fortes températures, de gros problèmes de chaleur. Et donc, en cette période de forte chaleur, le gouvernement a activé la plateforme téléphonique Canicule Info Service, qui délivre des conseils pour se protéger de la canicule, notamment pour les personnes les plus fragiles. Encore faut-il avoir le numéro téléphoné, mais pour contacter ce numéro vert, hein, Canicule Info Service, il faut faire le 0800 066 666, qui est joignable de 8h à 19h. Mais quand nous sommes en période de canicule, évidemment, c'est que la chaleur, est insupportable. Si la chaleur est insupportable, c'est l'enfer, quoi. Or, le nombre 666, c'est dans la Bible ce qu'on appelle le nombre de la bête. Il apparaît dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, les versets de l'Apocalypse de Jean concernant la bête figurent dans le chapitre 13, versets 11-18, et il se termine ainsi: que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Et alors, donc.
Si vous cherchez un nom, un prénom pour votre enfant, n'hésitez pas, 666.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le pape François n'est plus là, mais en 2016, le pape François a fait rejeter par l'administration conclave du Saint-Siège un chèque de don d'un montant de 16 666 000 pesos. Bon, c'est quand même près de 1,2 million de dollars, car ce chèque était entaché par le nombre 666, associé au diable. Ça montre que l'Église a les moyens, parce que moi, si on me donne un chèque de 1,2 million de dollars, même en pesos où il est marqué 666, ça ne va pas me choquer. Hein, donc d'ailleurs, des groupes de prière chrétiens avaient été organisés pour le sixième jour du sixième mois de l'année 2006, dans la crainte d'événements satanistes. 6-6-2006, donc ça fait 6-6-6. Ah, et il y en a des choses. D'ailleurs, un film, 666, La Malédiction, film américain réalisé par John Moore, lui, est sorti dans le monde entier le 6 juin 2006. Volontairement, soit le 666, clin d'œil de la part des distributeurs, hein, qui profitèrent de la superstition des spectateurs pour assurer la promotion du film. Hein, vous voyez, donc, vous devez faire le 666, numéro vert pour la canicule. Je ne sais pas si tout le monde osera.
Ou a osé le faire.
Oui, mais ça reste en place s'il y a de nouveau des périodes de fortes canicules. Voilà pour ces quelques brèves.
Voilà, au niveau des brèves, allez, un petit peu de culture, hein, culture ou enquête policière. Bon, l'affaire des anges disparus de Nantes. Eh oui, à Nantes, des anges ont disparu. Bon, à Nantes, il y a une basilique, hein, la basilique Saint-Nicolas. Elle a été construite en 1844, gravement endommagée lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, comme beaucoup d'édifices en France et par ici, hein, par exemple. En 2009, des travaux de restauration, bon, rien de plus normal. Hein. En 2020, l'adjoint au patrimoine de la ville communique enfin sur la découverte de la disparition de 8 séraphins déposés lors des travaux en 2009. Les séraphins, c'était les anges musiciens qui ornaient la cathédrale de la basilique Saint-Nicolas. Des statues de plus de 2 mètres de haut chacune, elles ont été dérobées par un prestataire dans la foulée du chantier de restauration du monument. Oui, il devait les démonter, mais bon, après il les a pas remontées. La ville a mis 11 ans pour s'en apercevoir. D'après l'adjoint au patrimoine de la ville de Nantes, Olivier Château, il y a eu un défaut d'attention sur le suivi des statues. Ah, que c'est bien dit, hein. On voit qu'il a fait des études, ce monsieur. Les anges musiciens de Saint-Nicolas avaient été récupérés, puis dispersés par le prestataire du chantier de la basilique. La présence de l'une des statues dans une vente aux enchères en 2020 a été repérée par la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC des Pays de Loire, qui a aussitôt saisi les autorités, alerté la ville de Nantes, qui a confirmé la disparition des sculptures originales déposées en 2009. L'ange destiné à la vente a bien entendu été saisi, puis restitué à la municipalité. Une autre statue a été saisie en Espagne et devrait prochainement être restituée. Les 6 autres séraphins sont dispersés au sein de collections particulières et devraient faire l'objet de procédures judiciaires. Les nouveaux propriétaires de ces biens, pourtant inaltérables, ayant refusé de les rendre de bonne grâce à la ville de Nantes. Placé en garde à vue en septembre 2022, l'entrepreneur à l'origine de la disparition des anges a assuré s'être librement emparé des statues déposées dans la cour du presbytère de Saint-Nicolas, estimant qu'elles avaient été placées au rebut. Mais pourquoi pas, hein ? Pour la ville dirigée par une municipalité PS, c'était donc un défaut d'attention. C'est la moindre des choses. Alors, d'autres choses sont en train de disparaître à Nantes. Des dizaines de rues sont en train d'être interdites à la circulation, dehors les prolos. Vous remarquerez que sur le Grand Boulevard, entre Lille-Roubaix et Tourcoing, il y a des arbres qui sont entourés de gros tuyaux rouges en plastique. On se demande pourquoi. Il y a 88 arbres qui doivent être abattus. Il faut attendre le mois d'août afin qu'il n'y ait personne pour râler. Alors, toujours dans notre rubrique culturelle, une valeur sûre, Van Gogh. Van Gogh, un génie de la peinture, mort dans une pauvreté extrême. Mais Van Gogh permet aux soi-disant artistes contemporains de bien vivre. À Vérone...
Contemporain, c'est des synonymes.
Au niveau artistique. Dans d'autres domaines, peut-être pas. Donc, à Vérone, le Palazzo Maffei exposait une sculpture de l'artiste italien Nicola Bolla, inspirée de la chaise peinte par Vincent Van Gogh. Oui, la chaise, c'est un tableau. Quelque chose qui avait l'apparence d'une chaise construite en papier d'aluminium avec plein de petits miroirs dessus. Un couple l'admirait de près et le monsieur a voulu s'asseoir dessus. Patatras, bardaf, là c'était l'embardé, comme dirait l'autre.
C'est vrai que sur l'original, c'est plus dur de s'asseoir. Si on est une chaise sur un tableau...
Tu peux coller une image de toi assis sur le tableau de Van Gogh. Enfin, si tu arrives à l'approcher. C'était l'embardé. Le monsieur a voulu s'asseoir dessus. L'œuvre d'art contemporaine s'est écroulée. Comme on peut le voir sur les caméras de surveillance, qui n'ont donc servi à rien comme d'habitude, le couple a quitté la salle précipitamment et n'a pu être identifié. Mais pourquoi ils foutent des caméras partout ? Elles ne servent à rien, on vous le dit. Il est probable que le Palazzo Maffei ait racheté un rouleau de papier d'aluminium afin de restaurer cette œuvre d'art. C'était une petite brève.
Oui, et tu en as une autre sur, sur l'île, là, je crois.
Bah, sur l'île, c'était les arbres du Grand Boulevard, hein, 88
oui,
arbres
non,
à abattre.
Sur la boutique Louis Vuitton.
Ah, la boutique Louis Vuitton, c'est vrai, excusez-moi. La boutique Louis Vuitton, victime d'une troisième attaque à la voiture Bélier. Bon, quand c'était un traiteur restaurant, marchand
oui,
de poissons, on l'a jamais été attaqué.
C'était l'huîtrière. Ceux qui ont connu. Hein.
Tandis que maintenant, c'est du Louis Vuitton. Alors, il y a quand même des gars qui ont de drôles d'idées.
C'est le groupe LVMH.
Voilà.
Et qui est le président directeur général, le grand patron,
c'est Bernard Arnault.
Ouais,
ah,
oui,
première fortune de France. Enfin, ça dépend des jours, mais quand même, il est bien placé. Hein.
Ça fluctue. Hein, bon.
Voilà. Hein, donc, cette boutique, encore une attaque à la moto Bélier. Et puis, il y en aura d'autres, j'en suis à peu près certain. Après, c'est pour piquer des trucs. Bon, je ne sais pas ce qu'ils en font, hein, parce que au niveau de la revente.
Alors, il y a un marché parallèle.
Il
hein,
y a probablement un marché parallèle. Que, hein. Voilà. Après.
Si on est ça sur le marché de Oisem, faut dire que c'est une contrefaçon tout de suite. Hein.
Oui. Après, après, ça se fait sur Internet. Hein, le commerce des contrefaçons, ouais. Je pense que c'est le plus gros marché d'achat-vente sur Internet. Hein. Voilà, donc petite brève régionale. Et Daniel, tu veux nous parler des francs-maçons,
bon,
peut-être.
Je voulais parler un peu de la franc-maçonnerie, parce qu'on a découvert que il y avait une mutuelle spéciale, une mutuelle qui propose un contrat spécifique pour les francs-maçons. Hein, c'est sur le site hiram.be. que l'on trouve cette information. Bon, c'est un site qui est le relais fidèle des obédiences maçonniques, surtout du Grand Orient de France. Hein. Mais c'est intéressant. Alors, cette mutuelle s'appelle Mutual. Et il est écrit sur ce site, une mutuelle propose un contrat spécifique pour les francs-maçons. La franc-maçonnerie et la mutualité ont des liens forts et historiques. Donc, une mutuelle qui répond aux besoins particuliers et spécifiques des francs-maçons. C'est vrai que chacun connaît les nombreux risques qu'encourent quotidiennement les francs-maçons. Hein, et donc, grâce à cette mutuelle, on découvre les risques du métier. Hein, donc, on peut supposer que ça couvre, par exemple, les foulures du poignet provoquées par la pratique assidu de la batterie réglementaire, les risques de chute pendant les cérémonies, notamment celle des initiations, les yeux bandés, les entorses du pied dues au passage sur la planche à boules, les escarres aux fessiers dues à des tenues trop longues qui n'en finissent pas, des tours de reins et lumbagos pendant le passage de la porte basse. Voilà, des extinctions de voix à force de déclamer liberté, égalité, fraternité, à lire les rituels. Voilà. Le cholestérol peut-être, aggravé par les nombreuses agapes et tendances à l'embonpoint du fait de la charcuterie abondante. Enfin bon, c'est bien d'avoir fait une pub sur ce site pour une mutuelle spéciale, contrat spécifique pour les francs-maçons. Donc, ça s'appelle Mutual. Et sur le site, vous voyez le compas et l'équerre. Donc,
voilà.
Mais ça n'est pas réservé uniquement aux francs-maçons. Mais
voilà. Si vous êtes en bonne compagnie. Voilà. Hein, ouais. J'ajoute que pour des gens qui veulent passer inaperçus. Ça la fout mal, quoi. Ils ont leur carte, ils ont leur carte de mutuelle sur eux. Hein.
Oui, parce que, oui, mais ils prennent d'autres, hein, mais ils ne feraient pas. Mais effectivement, mais si c'est un contrat spécifique, ça apparaît sans doute sur la carte. On dit, ah, Tiens. Bon, ben voilà, je pense que
voilà, sur
ça
ce...
terminera notre émission.
Voilà.
Et donc, on se retrouve, alors, je ne sais pas, dans le mois prochain, c'est le mois d'août.
Donc, au mois de septembre.
Au mois de septembre, et peut-être.
Rendez-vous donc le deuxième samedi du mois, voilà. La libre pensée de Villeneuve-d'Ascq, sur Radio Campus Lille.
Voilà. Allez, au revoir à tous et à toutes.
Et aux autres.
Et aux
à bientôt. Au revoir.